Bonjour. Aujourd'hui, nous offrons une section de texte tirée des médias suivants. Le Devoir, Reflet et La Presse. Au programme, à la source des péchés originels. Le cimetière sous les églises, un patrimoine inconnu. Des poupées au service de la société. Et décarboner le Québec, une fausse bonne idée. Bonne écoute.
À la source des péchés originels. Un texte de Ismaël Oudacine, paru dans l'édition du 25-26 mars 2023 du journal Le Devoir. Dans Pays de sang, l'écrivain américain Paul Auster s'interroge sur la nature violente de l'Amérique. L'écrivain Paul Auster et le photographe Spencer Ostrander présentent un ouvrage hybride sur l'histoire de la violence aux États-Unis, qui est aussi un recueil de photos sur les lieux de massacres qui ont endeuillé nos voisins du Sud. Dans son dernier livre, Pays de sang, l'écrivain Paul Auster s'interroge : qu'est-ce qui fait des États-Unis le pays le plus violent au monde ? Sans vraiment parvenir à répondre à cette délicate et souffrante question, le romancier new-yorkais revient sur les racines de la violence américaine, illustrées par une quarantaine de clichés pris par son gendre Spencer Ostrander. Un stationnement, une église, un immeuble, des écoles ou le bord d'une route, les photographies neutres et sans couleur de Spencer Ostrander immortalise les sites, aujourd'hui désertés, où se sont produites des tueries de masse. Les Américains ont 25 fois plus de chances de se faire tirer dessus que leurs homologues dans d'autres pays riches et supposés évolués, écrit Paul Auster. Et les statistiques lui donnent raison. Il y a 393 millions d'armes en circulation aux États-Unis, 40 000 décès par balle chaque année, plus de 100 morts dans le pays chaque jour. 1,5 million de vies américaines ont été détruites par balle depuis 1968, rappelle l'écrivain, soit plus de morts que la somme totale des morts causées par les guerres qu'a connues le pays depuis le premier tir de la Révolution américaine. Si l'auteur de la trilogie new-yorkaise additionne à travers un discours historico-politique les macabres statistiques, c'est pour mieux en révéler la continuité. Comme le note l'écrivain, les États-Unis entretiennent une relation ambivalente, unique et profonde avec les armes depuis la signature de la Constitution américaine en 1787 et son inamovible deuxième amendement, renforcé au fil du temps par la Cour suprême. L'auteur appuie ses arguments sur les travaux de nombreux experts, comme les juristes et spécialistes constitutionnels Michael Waldman et Adam Winkler. Chapitre après chapitre, les superbes images monochromes du photographe et le plaidoyer choc de l'écrivain donnent de la force à ce court essai où défilent les noms et les profils de tueurs de masse ayant agi aux quatre coins d'un pays hanté ou piégé par les armes à feu depuis les premiers jours de sa fondation. Paul Auster, dont les médecins viennent de lui diagnostiquer un cancer, se confie aussi dans cet ouvrage hautement pessimiste, malgré quelques lueurs d'espoir. Il y révèle également un terrible secret de famille, le meurtre par balle au Wisconsin en 1919 de son grand-père paternel par sa grand-mère. À la manière du documentaire « Bowling for Columbine » de Michael Moore, l'écrivain de 76 ans creuse dans les racines coloniales d'un pays habité très tôt par la psychose de la violence et de la peur. Il cite deux péchés originels, sources de la violence à l'américaine, la conquête de l'Ouest, marquée par des combats d'une agressivité extrême, en particulier envers les Premières Nations, et le second, l'esclavage qui sera suivi par l'apartheid et les violences racistes des sudistes avec l'application des lois ségrégationnistes Jim Crow. À cela, l'auteur ajoute l'époque de la Prohibition, la guerre du Vietnam et la montée du puissant lobby NRA et des groupuscules nationalistes blancs, tout un maelstrom qui, mis bout à bout, fait l'autopsie d'une nation amochée et divisée comme jamais. C'était « À la source des péchés originels », un texte de Ismaël Oudassine, paru dans l'édition des 25 et 26 mars 2023 du journal Le Devoir. Les cimetières sous les églises, un patrimoine méconnu. Un texte de Yves Hébert, paru en mars 2023 dans Reflet. Chaque année, dans le cadre des Journées de la culture, les membres de la Société d'histoire de Lévis organisent une visite de la crypte de l'église Notre-Dame de la Victoire. Ce lieu de mémoire pique la curiosité. On y découvre que 305 personnes ont été inhumées sous l'église de 1851 à 1926. Des curés, des prêtres et des notables, entre autres, mais aussi des enfants et des gens de métier. Ce cimetière, que l'on appelle Ad Sanctos, signifiant « près des saints », n'est pas unique au Québec. On en trouve dans presque toutes les églises construites avant 1900. Cette tradition d'inhumer les prêtres sous la nef et le chœur des églises est très ancienne. Elle répond depuis plusieurs siècles aux besoins des vivants de se rapprocher de Dieu au moment de leur décès. Implantée en Nouvelle-France, elle représente une prérogative des membres du clergé local et des seigneurs. Mais avec les années, les dépouilles des grands marchands et des personnalités ayant marqué la communauté y sont ajoutées. Comme plusieurs anciennes églises ne disposent pas encore de sous-sol, les défunts sont enterrés sous les bancs. Cette pratique va toutefois disparaître au 19e siècle pour des raisons d'hygiène, mais aussi parce que le sous-sol des églises est surchargé de sépultures. L'inhumation sous l'église révèle les différences sociales de son époque, mais également la fortune des familles et les prérogatives des seigneurs. Tout comme le banc d'église, l'inhumation in situ peut coûter cher et ce contexte cause bien des maux de tête aux curés qui souhaitent à la fois augmenter les revenus, favoriser les notables et restreindre l'enterrement sous les églises. Dans son livre « Mourir hier et aujourd'hui », l'historien Serge Gagnon montre bien que l'inhumation sous les églises est un droit parfois contesté par les curés, et ce, pour des raisons hygiéniques. Au 19e siècle, le haussement des planchers permettra de prolonger cette tradition. Ainsi, à cette époque, des cryptes sont aménagées sous le cœur des lieux de culte. Le cimetière Ad Sanctos de l'église de Saint-Roch-des-Aunais, sur la côte du Sud, est exceptionnel. Vers 1848, on y met en place un petit cimetière de 50 stèles, dont près de la moitié sont en marbre, mais 26 d'entre elles attirent l'attention. Fabriquées en bois, elles sont ceinturées par une clôture en fonte ou en fer. Sous l'église Saint-Henri de Mascouche, 54 personnes issues des élites locales sont inhumées dans des tombeaux en briques. La visite de la crypte de l'église de Sainte-Anne-de-la-Pérade nous apprend que le corps du premier ministre du Québec, John Ross, y fut inhumé le 7 mai 1901. Parmi les cryptes exceptionnelles du patrimoine funéraire québécois, il faut mentionner celle des Hospitalières, située sous la chapelle-église de l'avenue des Pins à Montréal. Érigée en 1861, elle renferme les sépultures de près de 600 sœurs et celle de Jeanne Mance, fondatrice de l'Hôtel-Dieu de Montréal et cofondatrice de la ville de Montréal. Le cimetière Ad Sanctos de la basilique cathédrale Notre-Dame de Québec est aussi un lieu de mémoire d'exception. Près de 900 personnes y furent inhumées. Lors de la reconstruction de la cathédrale en 1923, on y a aménagé une crypte pour accueillir les dépouilles des évêques, archevêques et cardinaux du diocèse de Québec. Les restes des gouverneurs Louis de Buade, comte de Frontenac, Philippe de Rigaud de Vaudreuil, Louis-Hector de Caillère et Jacques-Pierre de Tafanel de la Jonquière, enterrés auparavant dans l'église des Récollets, se retrouvent dans cette crypte. Les cimetières Ad Sanctos font partie du patrimoine funéraire du Québec, mais peu d'études y sont consacrées. Certaines organisations s'intéressent toutefois à l'ensemble du patrimoine funéraire québécois. Mentionnons l'Écomusée du patrimoine funéraire et commémoratif du Québec. C'était « Les cimetières sous les églises, un patrimoine méconnu », un texte de Yves Hébert, paru en mars 2023 dans Reflet.
Des poupées au service de la société. Un texte de Extra Femme, paru le 9 mars 2023 dans La Presse. C'est en 2019 que Clara Day Lewis s'est engagée à révolutionner le monde des jouets pour enfants en créant Brown Diva Dolls. Son but? Aider les enfants afro-descendants à avoir une meilleure estime d'eux-mêmes grâce à des poupées qui leur ressemblent. Rencontre avec une femme qui a su conjuguer son identité, son rôle de mère et de travailleuse sociale avec son projet entrepreneurial. La genèse de l'entreprise. Nous avons tous eu des poupées blondes aux yeux bleus quand nous étions jeunes, fait remarquer l'entrepreneur. Or, selon Clara Day Lewis, cette façon hégémonique de représenter la beauté a une incidence négative sur l'estime des enfants issus de la diversité. En réfléchissant, comme une afro-descendante, comme une mère et comme une travailleuse sociale, elle a vu l'idée des poupées lui apparaître clairement. Grâce à elle, il y a moyen de sensibiliser les jeunes à la différence dès l'enfance, et ce, par le jeu. J'ai moi-même accepté ma différence à l'âge de 40 ans. Longtemps, j'ai tout fait pour avoir des cheveux lisses, pour ressembler à ces standards impossibles à atteindre pour bien des gens, dit Clara Day Lewis, fondatrice de Brown Diva Dolls. De travailleuse sociale à entrepreneur. Lorsqu'on lui demande si elle a toujours eu ce rêve de se lancer en affaires, Clara confie « Ma mère était couturière et travailleuse autonome. Le monde des affaires faisait donc partie de ma vie de famille. Des idées, elle en a toujours eu, mais elle souhaitait les garder pour plus tard et se diriger d'abord vers sa première passion, la relation d'aide. « J'ai ça dans mon ADN », dit-elle. Ce n'est donc pas pour rien que le projet de Brown Diva Dolls unit à merveille ces deux pans de sa personnalité. Femme, mère et entrepreneur. Lorsqu'il est question d'entrepreneuriat au féminin, plusieurs défis nous viennent en tête, et ils sont plus présents lorsqu'ils sont conjugués avec le rôle de mère. Le parcours de Clara ne fait pas exception à la règle. Si c'est plus difficile pour les femmes en affaires, ça l'est encore plus pour les afro-entrepreneurs, explique-t-elle. Étant mère, en plus, je ne peux pas faire plusieurs événements de réseautage par semaine. C'est donc plus long de sortir de mon cercle de connaissances de base. Cela dit, La maternité a également nourri la nature de son entreprise en l'amenant à être plus consciente du monde actuel. L'incidence de la représentation positive. Si jouer à la poupée développe les aptitudes psychosociales des jeunes, l'activité a aussi le potentiel de les aider à avoir de l'empathie pour la différence, en plus de servir de prétexte à des conversations importantes. Un sentiment de bonheur anime l'entrepreneur lorsqu'elle reçoit des témoignages de mères blanches qui ont pu aborder la question du racisme à la maison grâce au Brown Diva. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'elle refuse de dire que ces poupées sont uniquement destinées aux enfants noirs. Les poupées sont pour tous les enfants. Plus les jeunes sont en contact avec la différence, plus nous allons créer des adultes conscients de celle-ci, dit Clara Day Lewis, fondatrice de Brown Diva Dolls. La poupée comme moyen d'expression. Chose certaine, Brown Diva Dolls a le vent dans les voiles. L'entreprise vient de lancer une poupée représentant la docteure Alexandra Bastiani, première femme noire à être devenue cardiologue d'intervention au Canada. Si ce genre d'initiative remplit Clara Day Lewis d'une grande fierté, rien n'égale celle qui accompagne le fait de savoir que ces poupées sont reconnues comme un outil éducatif. Elles sont utilisées dans certains endroits pour des animations sur le vivre ensemble, souligne-t-elle. Il reste qu'il y a peu de poupées noires dans les écoles, les garderies et les centres de la petite enfance, CPE. Clara et son équipe travaillent donc à créer une trousse d'animation-intervention clé en main qui se révélera idéale pour ces établissements. C'était « Des poupées au service de la société », un texte de Extra Femme paru le 9 mars 2023 dans La Presse.
Décarboner le Québec, une fausse bonne idée? Un texte de Daniel Gill, paru le 11 avril 2023 dans La Source. Depuis quelques mois, la décarbonation du Québec est devenue un leitmotiv national qui semble rallier tout le Québec. Une position peu contestée qui cependant mérite d'être mise en perspective avec la dernière tempête de verglas qui vient de frapper le Québec et plus particulièrement la métropole. Certes, devant l'impératif climatique, le Québec ne peut être en reste et ce, malgré un bilan somme toute exemplaire d'un point de vue collectif. En même temps, il ne faudrait pas être dupe, car nous savons tous que le Québec représente un poids négligeable dans la lutte contre les changements climatiques avec ses 80 millions de tonnes produites annuellement versus une production mondiale d'environ 50 milliards de tonnes. En fait, nous comptons pour à peine 2 minutes de production sur une journée de 24 heures, une goutte d'eau dans l'océan. Proposer de réduire nos émissions de 40 millions de tonnes alors que la production mondiale augmentera de 7 milliards de tonnes durant la même période apparaît plutôt insignifiant. En fait, l'ouverture d'une ou deux centrales au charbon suffira à annihiler tous nos efforts. Ainsi, à coût de plusieurs milliards de dollars par an, on s'apprête à décarboner le Québec pour des résultats, avouons-le, pratiquement nul à l'échelle mondiale, alors que nos besoins en santé, en éducation et en logement sont énormes. Nos écoles croulent sous la moisissure, les hôpitaux débordent pendant que les aînés et les itinérants sont laissés à eux-mêmes. Et on pourrait facilement allonger la liste des maux qui accablent le Québec. Transport. Le transport étant notre principale source d'émissions, des milliards y seront engloutis pour tout électrifier. Déjà, on abreuve les grands manufacturiers automobiles de 1 milliard de dollars par an pour que les plus nantis puissent rouler en voiture électrique, l'équivalent de 4 000 logements sociaux. En 3 ans à peine, une grande partie de la crise du logement pourrait peut-être être réglée au profit des plus démunis. Pis encore, au cours des prochaines années, rien de moins que 5 milliards de dollars seront consacrés pour la construction de garages et l'achat de 1 200 autobus électriques alors qu'on n'arrive plus à maintenir une qualité de service en matière de transport collectif. Dans tous les cas, ces sommes ne changeront rien aux enjeux de mobilité. Cela ne réduira pas la congestion routière, au contraire même, et n'améliorera pas la desserte en transport en commun. 10 milliards en 5 ans pour se bercer d'illusions. Et comme si cela n'était pas assez, la mairesse de Montréal a décidé d'éliminer de sa ville toute consommation de gaz naturel d'ici moins de 20 ans. Une autre fausse bonne idée selon Hydro-Québec qui ne voit pas comment elle pourrait suppléer à cette demande. Un réseau électrique fragile. La pluie verglaçante qui vient de s'abattre sur le Québec et la grande région de Montréal s'avère une belle occasion pour questionner cette position. Vouloir décarboner le Québec à tout prix, c'est se priver d'importantes sommes d'argent qui pourraient servir à meilleur escient. Mais c'est surtout mettre en jeu notre propre sécurité énergétique. Imaginons en 2040 un Québec sans pétrole, sans gaz naturel. Le rêve, quoi. Malheureusement, on semble oublier que nous vivons dans une période de grande turbulence climatique, informatique, mais aussi politique et énergétique, comme en fait foi la guerre en Ukraine avec ses répercussions énergétiques sur toute l'Europe. Faire supporter notre alimentation en énergie sur un réseau électrique d'une aussi grande fragilité, comme on a pu encore le constater la semaine dernière, relève, diront certains, de l'audace, tandis que d'autres y verront un manque évident de prudence. Quelques années de sécheresse, une autre crise du verglas, un attentat terroriste sur quelques pylônes stratégiques ou un virus informatique aurait des conséquences incroyables qu'on n'ose à peine concevoir. La pluie verglaçante du 5 avril dernier a mis en relief la fragilité du réseau électrique québécois, selon l'auteur. Une simple rupture de réseau pourrait paralyser dangereusement des régions entières, même la province dans son ensemble. Au cours de la dernière année, le Québec a connu 3 pannes de courant majeures et les experts en prévoient encore plus. Dans un Québec totalement décarboné, cela se traduirait par des milliers d'immeubles et de foyers sans chauffage, d'individus sans transport individuel ou collectif, et sans accès aux services policiers, ambulanciers et d'incendies munis de véhicules électriques. Une abondance de ressources. Contrairement aux pays européens, le Canada a accès à une abondance de ressources énergétiques, que ce soit le pétrole, le gaz, l'uranium et de l'électricité sous toutes ses formes. Dans un contexte de grande instabilité globale, il serait hasardeux de ne pas profiter de cet avantage. En se décarbonant, c'est plus ou moins à cette sécurité que nous renonçons, et ce, sans rien changer au dérèglement climatique, tout en négligeant la qualité de nos services sociaux. Y a-t-il vraiment quelqu'un dans la salle pour penser qu'en réduisant notre consommation de 40 millions de tonnes par an, cela nous mettra à l'abri des bouleversements environnementaux? La réponse au changement climatique ne peut être que globale et devra nécessiter l'engagement des principaux pays producteurs de gaz à effet de serre et de ceux qui le deviendront, ce qui est loin d'être acquis. Abdiquer n'est pas la solution. mener nos combats sur d'autres fronts et d'autres continents semblerait plus judicieux et prometteur. À titre d'exemple, près de la moitié de la population africaine n'a pas accès à l'électricité et d'ici 15 ans, la population y augmentera de près d'un milliard d'habitants. Laisser le développement de ce continent entre les mains des producteurs de charbon serait catastrophique pour l'humanité tout entière. Y investir nos milliards serait sans doute plus bénéfique d'un point environnemental et moral. Décarboner le Québec, c'est ni plus ni moins se donner bonne conscience, tout en s'assurant de maintenir notre niveau de vie en continuant d'exporter notre pollution dans les pays pauvres. Un peu comme donner un dollar à un itinérant en s'imaginant apporter notre contribution honorable au sort des sans-abri. Il serait facile de voir dans cette décarbonation rien d'autre qu'une forme d'éco-blanchiment étatique qui nous réconforte dans notre immobilisme. Face aux multiples enjeux de développement et avec tous les échecs que connaît la lutte contre les changements climatiques, il est clair que la vérité est ailleurs. C'était « Décarboner le Québec, une fausse bonne idée ». Un texte de Daniel Gill, paru le 11 avril 2023 dans La Source.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visevoix.com. Cette émission est rendue possible grâce à Robert Chartier et Gilbert Lepage à la lecture, Évelyne Séverin, Diane Métayer et Francine Thériault à la recherche, Nicolas Wartman à la présentation et au montage.